Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. En ce moment, les yeux tout entiers de la cinéphilie sont rivés, comme chaque année depuis bientôt 75 ans, sur la French Riviera, et précisément sur Cannes, où se tient le traditionnel festival auquel le nom de la ville sera à jamais associé. Des premiers échos de Cannes, d'ailleurs, nous parviennent notamment des polémiques, ça aussi ça devient une tradition, polémiques notamment sur les mutations que connaissent la fabrication et la diffusion du cinéma et des productions culturelles en général. Aussi, Edouard Baird a-t-il profité par exemple de la cérémonie d'ouverture pour glisser un petit taquet à Netflix déguisé en plaisanterie.
Le cinéma, c'est la salle de cinéma. C'est être ensemble, quoi, c'est vrai. Sortir de chez soi, ce miracle-là, plutôt que de rester là, à manger des pizzas en regardant Netflix.
Derrière cette petite guerre des nerfs entre plateforme et cinéma, disons traditionnel, il y a de vrais enjeux. Et on a eu envie de regarder au-delà des petites phrases plus ou moins bien senties et de nous interroger sur deux concepts qui désormais règnent en maître sur la pop culture, qu'il s'agisse de cinéma d'ailleurs ou de séries. Les blockbusters et les spoilers, incarnés très vivement en ce moment à la fois par Game of Thrones et Avengers Endgame, l'un et l'autre ayant à leur façon basé leur succès délirant sur une stratégie de com où les surprises et la peur de les voir gâchés par les autres spectateurs ont joué un rôle stratégique. C'est un elle servira de fil scénaristique à notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour évoquer ces deux aspects désormais essentiels dans notre vie culturelle à tous, il nous fallait un fin connaisseur de ces mutations. Ça tombe bien, il y en a un qu'on croise souvent dans les productions estampillées Binge Audio, c'est mon camarade journaliste Rafik Djoumi, membre historique de la team No Ciné, créateur de l'émission de référence Beats, et qui officie par ailleurs chez Arrêt sur Image. Je suis donc allé causer tout ça avec lui et j'ai démarré très simplement en lui demandant c'est quoi, historiquement, un blockbuster.
Alors le blockbuster au cinéma, c'est un terme qui vient du début des années 70, parce qu'au départ, blockbuster, c'est du théâtre. C'est une pièce qui cartonne et qui fait du tort aux autres pièces qui jouent dans le même bloc. Mais on l'a utilisé au cinéma au début des années 70, en fait, pour le film Le Parrain, parce qu'à l'époque, la Paramount a voulu sortir Le Parrain d'une façon particulière qui ne se faisait pas, qui était sur plein de salles en même temps, pour profiter très vite du succès du bouquin qui était énorme l'année précédente, en fait. Il y avait eu L'Exorciste avant, dont le bouquin avait cartonné, et le film est arrivé juste après, ça a été un carton. Ils se sont dit, il faut qu'on sorte le film très vite. Parce que le cinéma d'avant, les films, ils avaient 10 ans pour s'installer auprès de leur public, ils restaient en salle super longtemps. Mais là, le projet était de faire un truc dans la vitesse. Donc, Le Parrain est considéré officiellement comme le premier blockbuster du cinéma, au sens où c'est une énorme sortie événementielle qui invite les gens à se précipiter dès les premiers jours. Et bien sûr, après Le Parrain, il y a eu Les Dents de la Mer qui est sorti sur le même modèle, hein, pareil, un livre qui cartonne. Et donc, très vite, on balance le film avant que la vague ne retombe. Et les succès absolument cosmiques, intergalactiques des Dents de la Mer a entériné cette formule. Oui. Mais on a tendance, par la suite, à qualifier de blockbuster un peu tout et n'importe quoi. Il faut savoir que le premier Star Wars n'est pas un blockbuster, pour le coup, puisqu'il est sorti sur 37 salles, vu que le studio n'attendait pas grand-chose et que son succès est arrivé arrivé 2 mois plus tard, en fait, durant l'été. Mais c'est ce qu'on appelle un sleeper, c'est-à-dire un film, justement, qui n'était pas attendu, mais qui se révèle être un succès absolument gigantissime. Idem pour un film comme E.T., qui n'était pas du tout attendu. Un blockbuster, donc, c'est vraiment un film qui a l'entier support de son studio, qu'on va sortir sur un maximum de salles, avec une promo très, très concentrée dans le temps, pour que tout le monde se dise, il faut absolument que je le voie maintenant, avant que mes copains le voient, ou ce genre de choses. Donc, on crée artificiellement un phénomène.
Est-ce que cette notion, elle a toujours du sens aujourd'hui, vu l'économie du cinéma telle qu'elle est maintenant ?
Hélas, elle a, je dirais même, de plus en plus de sens, cette notion aujourd'hui, puisqu'on semble ne plus fonctionner que sur un système de blockbuster, en tout cas au niveau du cinéma hollywoodien. Les films, je dirais, les films du milieu ont quasiment disparu, ce qui fait qu'on peut plus espérer un E.T. aujourd'hui, on peut plus espérer un sleeper, un film qui, ou un sixième sens, un film qui sort de nulle part et où tout d'un coup il y a un carton de démentiel. On n'a plus que des trucs qui sont prévus un an et demi à l'avance. On sait que ce week-end-là, le slot va être rempli par Avengers 14 et toute la concentration des gens va être sur ce titre-là. J'ai tendance à penser que ça ne peut que s'épuiser, ce genre de formule. Tu peux pas créer artificiellement l'événement quasiment tous les 3 mois, ad vitam aeternam. Donc la notion de blockbuster telle qu'elle a pu faire vivre le cinéma hollywoodien, notamment dans les années 80-90, il serait bien qu'elle donne autre chose, en fait, et que peut-être que la salle de cinéma, je pense pas que ce soit réactionnaire de dire ça, mais il serait peut-être bien que la salle de cinéma redevienne ce qu'elle était dans les années 50, c'est-à-dire un écrin particulier dans lequel on peut voir les films dans les meilleures conditions et sans avoir à se précipiter. Je pense que justement l'arrivée de d'acteurs comme Netflix peut mettre à mal cette notion, puisqu'ils ont de plus en plus tendance à avoir des films qui sont des gros films très attendus avec des grands noms, donc typiquement le genre de truc qui fait l'identité du blockbuster. Lorsque le Scorsese va nous arriver avec Robert De Niro, on se doute bien qu'il va y avoir à la semaine de la mise en disposition du titre une concentration qui rappelle la mécanique du blockbuster. Mais du coup, comment les salles vont réagir par rapport à ça? Elles feraient peut-être bien de réagir par la surprise, c'est-à-dire en arrêtant cette formule qui montre ses limites, quoi.
Est-ce que cette notion aussi, en tout cas la manière dont elle est exploitée aujourd'hui, elle n'entérine pas, on va dire, le regain de toute puissance des studios sur les auteurs de films, qui est en gros le mouvement de balancier inverse de ce qui avait été ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, qui est un terme qui fait débat, mais bref, on voit très bien de ce que je veux dire, la grande prise de place au sein du système des auteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène. Là, on a l'impression que justement la victoire quelque part de cette notion de blockbuster, c'est aussi la victoire des gros studios.
Oui, d'un côté, il y a évidemment ça. C'est un projet qui a commencé dès la fin des années 90, en fait. Il y a eu un vrai bras de fer au sein des studios pour savoir de quoi l'avenir devait être fait, parce que dès cette époque-là, ils s'inquiétaient de ce qui allait donner à la dématérialisation des films. Et certains, les plus économistes, avaient compris qu'ils ne pourraient tenir que s'ils avaient la maîtrise absolue du copyright, en fait. Donc, ça a été le début d'une politique de la franchise. Il fallait que le studio possède absolument tout de l'œuvre et qu'elle soit déclinable à l'infini. C'est ce qui a mis à mal, en fait, tous ces auteurs comme James Cameron, Spielberg et autres qui avaient l'habitude, eux, d'arriver avec un projet et de cartonner, mais les droits leur revenaient toujours. Les studios veulent pas de ça. Les studios, ils veulent pas de Matrix aujourd'hui, parce que Matrix, ça appartient à 100% à ces auteurs. On peut rien faire avec si on n'a pas leur consentement. Les studios, ils ont besoin, donc la formule super-héros est prêt, tout à fait adaptée. Ils ont dépensé 7 milliards pour avoir les droits absolu sur un nombre incalculable de héros, et ils vont faire tourner la machine à fond, et c'est eux qui décident exactement quel jour, quelle heure, quel personnage, dans quelle situation. Si Twitter est pas content, on lui change la couleur de ses bottes. Enfin voilà, il y a pas à négocier avec des auteurs qui font un peu chier. Par contre, bah, du coup, le contre-coup, c'est que bah, la créativité se perd mécaniquement, je dirais. Parce que ces auteurs, ils avaient aussi pour eux d'amener des choses nouvelles. Quoi qu'on en dise, Matrix ou Avatar, il n'y avait pas d'équivalent avant. C'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Et les studios, les majors, ne peuvent pas faire ça. Elles ne peuvent qu'exploiter indéfiniment des choses du passé. Donc des super-héros qui, pour certains, ont presque 60 ans, ou du Star Wars qui a déjà 40 ans. Mais ils ne vont pas nous balancer un nouveau Star Wars. Quoi. Ils vont pas, quelque chose où tout le monde se dise, mais d'où ça sort ?
Et est-ce qu'il faudrait, du coup, vu que l'histoire est un éternel recommencement, ouais. Est-ce qu'il faudra un cataclysme industriel du type de ce qu'avait été La Porte du Paradis de Cimino, qui avait signé, on va dire, la mort symbolique de ce système des auteurs dominant les studios ? Est-ce qu'il faut, il va falloir l'équivalent, on va dire, d'un cataclysme pour un studio et pour que les auteurs reprennent un peu la main ?
Oh, c'est difficile de savoir de comment ce système va s'écrouler. Il s'écroulera par la force des choses, bah, ne serait-ce que par la lassitude du public, mais qui ne semble pas encore être là. Le public continue à agir, à réagir par rapport notamment au film Marvel, comme il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il se comporte plus en public de séries télé. On lui propose le nouvel épisode, on l'a laissé sur un cliffhanger et il y retourne. Cette formule-là, je vois pas très bien comment elle peut durer, mais il faut bien ne pas oublier que ce qui a par le passé détruit certains âges, c'était pas uniquement des énormes échecs, comme tu as cité La Porte du Paradis, c'était aussi des succès qui venaient de nulle part. Le nouvel Hollywood, il s'est constitué avec Easy Rider, un film qui coûte 3,50 francs, et en face d'Easy Rider, il y avait, je sais pas moi, Hello Dolly, avec Barbara Streisand en train de faire la faux folle dans du Technicolor à l'ancienne. Deux époques, voilà, on regarde les films aujourd'hui côte à côte, on se dit, mais ils sont pas sortis la même année, c'est pas possible. Si, c'est ça qui peut faire bouger les choses de la même façon que, même si on l'a oublié aujourd'hui, Star Wars, c'était une complète anomalie quand il a déboulé. Et donc voilà, l'idée, c'est d'où peut venir aujourd'hui la surprise, puisque le parc de salles est squatté par ces majors. Sur voilà, Netflix, Amazon, ils se reposent aussi sur cette politique-là. Je vois pas par quel canal ça pourra arriver. Je sais pas. J'espère qu'il existe que le YouTuber du futur va nous sortir l'œuvre ultime qui va mettre tout le monde à plat et redéfinir les règles. Mais ça arrivera, bien sûr. Mais la question, c'est sous quel format et sur quelle plateforme.
The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching, because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer.
Cette voix, c'est celle de Tom Holland, qui incarne actuellement Spider-Man dans l'univers Marvel au cinéma et qui nous parle juste avant la bande-annonce du prochain film où il endossera le fameux costume de l'homme-araignée. Si vous avez zappé l'anglais LV1 au collège, il explique en résumé aux spectateurs que si il ou elle n'a pas vu le dernier Avengers, mieux vaut s'abstenir de regarder la bande-annonce qui arrive puisqu'elle spoil très largement des moments clés d'Endgame. Ce petit message de prévention, ça n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres de la grande place que prend désormais la notion de spoiler dans la viralisation des poids lourds de la pop culture. J'aurais pu également citer Game of Thrones, tant c'est évident dans la recette de son succès. Mais d'abord, une question à destination toujours de Rafik Djoumi. Les spoilers, comme stratégie de com, est-ce que finalement c'est si récent que ça ?
En fait, oui, le spoiler, il date. Là, comme ça, spontanément, je pourrais pas trouver les tout premiers exemples, mais je me souviens que, par exemple, la sortie du Psychose d'Alfred Hitchcock, il y avait déjà sur l'affiche un énorme carton qui invitait les gens à ne pas raconter la fin en sortant. Il y a eu probablement 2-3 rigolos qui se sont fait casser la gueule dans la queue de l'Empire Contre-Attaque pour en sortant de la salle avoir révélé que Dark Vador était le père de Luke.
Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No. I am your father.
No. That's not true. effectivement, la culture du spoiler ou la culture de la crainte du spoiler, elle semble beaucoup plus récente. Dans mon expérience, ça a été au lendemain de la sortie de Sixième Sens, donc est un film qui reposait en grande partie, dont l'effet surprise, bien sûr, avait beaucoup compté dans son succès, et où justement, il y a plein de gens qui se sont fait spoiler à l'époque de la sortie du film. Et du coup, on commençait à se méfier pour la suite, à dire aux gens, arrêtez de me raconter les films. De la même façon qu'on a commencé aussi à voir des gens se plaindre des bandes-annonces qui en montraient trop. Elles ont toujours existé, ces bandes-annonces qui montrent tout le film. Mais c'est plutôt vers le début des années 2000 que j'ai commencé à avoir des plaintes. Et puis, bien sûr, le développement des réseaux sociaux. Puisque avant, tu ne pouvais te faire spoiler que par 2-3 collègues. Aujourd'hui, ils sont quand même 30 millions ligués contre toi. Donc c'est ça, je pense, qui a vraiment créé cette culture, si on peut parler de culture, mais aussi fait oublier aux gens peut-être que l'intérêt n'était pas spécifiquement rattaché au fait de savoir si un tel va mourir ou pas, mais peut-être de suivre un récit tout simplement. Au début des années 80, il y avait eu une grosse opération de communication autour de Dallas, avec un épisode dans lequel JR, le big méchant de la série, se faisait tirer dessus, et on laissait les gens à la réponse la saison suivante, et donc pendant tout l'été, toute la presse s'est régalée de ça, qui a tiré sur JR. Ce jeu comme ça avec le public, il a pas mal contaminé des séries actuelles, y compris une série comme Game of Thrones, qu'on peut presque résumer par étant du Dallas avec des dragons, quelque part. Mais est-ce qu'il a vraiment un intérêt narratif? Je sais pas. C'est des séries qui fonctionnent bien aussi quand on sait ce qui va se passer. Moi, j'étais au courant des Noces de Pourpre, là, par exemple, bien avant de les avoir vues. Ça n'a même pas empêché d'être choqué au moment où elles adviennent, tout simplement, parce que t'es pris dans le mouvement du récit. Donc, je sais pas si c'est vraiment ça gâche. Parfois, ça peut être un peu cringeant quand effectivement c'est une enquête policière et que tu connais le meurtrier dès la première minute. Mais
c'était le principe de Columbo, par exemple, ça ne l'a jamais empêché de marcher.
Oui, mais ça a bien marché, tout à fait. Donc voilà, je pense qu'effectivement le vrai responsable du malaise, c'est les réseaux sociaux et le fait que les gens n'aient pas encore appris à développer un parapluie, on va dire, par rapport à ce flot d'informations qui leur tombe sur le coin du nez dès qu'ils allument leur téléphone. Ça va se mettre en place, je sais pas, on va peut-être mettre des balises spéciales spoiler que tout le monde saura utiliser ou des choses comme ça. Ça se fait d'ailleurs spontanément, j'ai remarqué sur les chats, il y a déjà des balises pour cacher le texte, et t'es obligé de cliquer dessus pour le faire apparaître, etc. Donc tous ces outils-là, ils vont nous apprendre à faire parce que les gens faisaient, ceux qui voulaient pas savoir qui avait tiré sur JR, et ben, au bureau, ils se bouchaient les oreilles, quoi. Donc voilà, on va trouver la version virtuelle de ce geste.
Et selon toi, donc ça n'a pas eu nécessairement d'impact sur la conception, la fabrication des films, des séries qu'on voit aujourd'hui?
Je pense pas plus qu'avant. La série télé a fonctionné là-dessus sur la question du cliffhanger. L'idée, c'est de faire revenir le spectateur à l'épisode suivant. C'était déjà le cas des serials, ces moyens métrages qui passaient avant les films au cinéma. On se débrouillait pour qu'à la fin le héros il soit toujours accroché à une pierre au-dessus du vide. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un cliffhanger, s'accrocher à la falaise, parce que le film qui passait la semaine prochaine allait être un autre film, mais on voulait s'assurer que le spectateur revienne, au moins pour savoir si Zorro avait fini par clamser ou pas. Donc ça a contaminé toute la littérature pulp, s'est servi beaucoup de ça, la BD s'est servi de ça, le comic book évidemment. Enfin bon, moi je fais partie d'une génération de gamins qui ont été traumatisés par la mort de Raon quand même. On nous avait tué Raon à la fin de la BD. Il y a eu des je suis sûr qu'il y en a qui sont encore en thérapie aujourd'hui à cause de ça. Avant que évidemment la semaine suivante l'épisode le retour de Raon, on nous dise mais non, qu'en fait on s'était fait avoir. Donc moi c'est pas spécifique à la série télévisée, mais pour tout ce qui est de l'ordre du rendez-vous régulier, il faut bien s'assurer, si t'es pas absolument sûr je pense que ça peut révéler effectivement un sentiment de faiblesse par rapport à ton récit. Tu te dis, mon récit est pas suffisamment intéressant pour que les gens y reviennent spontanément. Il va falloir que je mette un petit cliffhanger pour accrocher le truc. Mais ça, c'est du showmanship, c'est du sens du spectacle, quoi. C'est interpeller les foules. Je pense, c'est pas nouveau et c'est pas un problème non plus.
Qu'est-ce que ça dit de nous quand même cette trouille, on va dire, énorme du spoiler. Là, on l'a vu de manière démesurée avec la reprise de Game of Thrones, donc pour sa dernière saison. On l'a vu aussi avec Avengers Endgame, où il y a eu beaucoup de stratégies de communication, très clairement, de la part de Disney et de Marvel, autour de, attention, il y a des spoilers, oh là là, ne spoilez pas, attention, pour faire venir les gens, très clairement. Qu'est-ce que ça dit de nous? Est-ce que ça veut dire qu'on recherche quand même, dans cette époque où on a accès assez facilement à peu près tout, je parle pour la civilisation occidentale, évidemment, où on a accès à beaucoup de choses, ça dénote d'une envie de retrouver justement ce côté un peu unique de la diffusion du moment où ça ne passait qu'une seule fois à la télé, fallait pas le rater, donc fallait pas être on va dire à la rue par rapport à ce qui allait se passer.
Je sais pas, c'est peut-être que ça témoigne déjà d'une consommation plus intime des œuvres et moins, je suis pas sûr que les gens parlent réellement autant entre eux, du dernier épisode qu'ils ont vu, que ce ne fut le cas à l'époque où Internet n'existait pas. Parce que les grands rendez-vous télévisuels des années 70-80, justement, c'était toute la France, pas une sélection de personnes. Même ceux qui n'en avaient rien à foutre de Dallas, ils avaient vu l'épisode. Donc, tu pouvais être sûr que tout le bureau était au courant. Et ça, déjà, ça créait des conversations touffues. Aujourd'hui, c'est ton petit cercle d'amis Twitter ou Facebook avec lequel tu fais ce jeu-là. Mais par contre, ta consommation des séries, elle semble avoir changé parce qu'elle... déjà, c'est à la carte. Tu choisis le moment où tu la regardes, etc. Tu te mets dans des bonnes conditions. Tu vis des moments intenses dans ton foyer, dans ton salon, en couple ou en famille, et t'as peut-être pas envie qu'un étranger ait du pouvoir sur toi. C'est un truc qui t'appartient. Et celui qui te spoil, c'est une façon de dire, je suis venu chez toi, j'ai fait caca sur la moquette, tu vois, et je t'ai dit qui était le meurtrier. Et ça, c'est pas cool. On n'a pas envie que des inconnus aient ce pouvoir sur nous. Donc, je pense que c'est plus ça que ça révèle. Et aussi, peut-être, parce qu'effectivement, on est bombardé d'informations, on a l'impression de tout savoir à l'avance et que on est quand même en quête de surprise. Alors là, c'est paradoxal parce qu'on serait en quête de surprise, donc on attend on ne veut pas savoir parce qu'on va être surpris, et en même temps on va voir Avengers 75 dont on sait exactement ce qui va se passer et à la minute près quelle blague de paix ou sur les bits la bite sera faite par tel ou tel personnage. Donc ça, c'est très paradoxal comme attitude. T'as envie de dire aux gens, si vous voulez être surpris, allez voir des films dont vous savez absolument pas ce qu'ils vont vous raconter. Mais c'est peut-être une forme d'appel à ça, c'est-à-dire à une façon de dire surprenez-nous, prenez-nous à revers. Ce qui a marché avec Game of Thrones aussi, c'est qu'effectivement, les gens étaient habitués à une certaine mécanique de récit qui faisait qu'on savait à l'avance qui allait crever et qui n'allait pas, et que là, tout d'un coup, les mecs se sont amusés à nous prendre complètement au dépourvu. Donc voilà, c'est peut-être une façon qu'a le public de dire surprenez-nous.
Alors il faudra peut-être beaucoup de temps pour que cet appel implicite à plus de surprises soit réellement entendu. Enfin qui sait, peut-être que par exemple le tout prochain et dernier épisode de Game of Thrones satisfera au moins en partie cet appétit, mais promis, de toute façon, on ne le spoilera pas. Merci à Rafik Djoumi pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.